Mystère et la 20e heure. Bonsoir.
Bonsoir Camille. 3 heures d'Étienne Dao en direct par 3 journalistes différents. Pas mal pour un mercredi. Chanteur, auteur, compositeur et producteur culte, aussi doué que doux, Étienne Dao fait un triptyque d'émissions en direct ce soir. D'abord dans la 20e heure, ensuite dans Very Good Trip de Mishka Assayas, puis dans Côté Club de Laurent Goumard. Le prétexte, la sortie de l'album de son concert live à Bercy en double CD, en triple vinyle et en édition de luxe, accompagné de l'enregistrement vidéo filmé à l'Accor Arena de Paris le 22 décembre 2023 et réalisé par Gaëtan Châtaignier. Et ça sort quand ? Dans 2 jours, le 29. Ajoutons à cela une version augmentée des chansons de l'innocence retrouvée, après une tournée de festival, et là, vous obtenez un Dao taille patron, comme on dit des champions sportifs. J'ai eu la chance de le recevoir pour de longs entretiens à 2 reprises auparavant. Comme je ne veux pas faire les mêmes émissions pour ennuyer ni les auditeurs, ni mon invité, je vais le faire parler de choses inédites, et vous pourrez retrouver les autres émissions sur le site de Radio France. Évidemment, ce soir, l'artiste nous parlera évidemment de lui et de son œuvre, mais aussi de coups de cœur littéraires, musicaux et cinématographiques. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Étienne Dao.
Bonsoir Eva.
Prêt pour le triathlon ?
Complètement prêt.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Je ne sais pas, à avoir la paupière pas trop lourde.
Et alors comment sont vos paupières ?
J'ai peu dormi en fait, il y avait une fête hier soir qui était un peu irrésistible, donc je me suis abandonné, et puis voilà.
Vous abandonnez facilement ?
Je peux.
Ça, c'est une réponse assez énigmatique. Je peux.
Oui.
Bon, j'insiste. Alors, je voudrais revenir à vos débuts, et puis je voudrais revenir à 2 onomatopées. J'boing, j'boing, ça vous dit quelque chose ou pas ? 79,
ah, oui,
transmusical.
Bien sûr. Exactement, et c'était... C'était au Transmusical en 78, je crois, ou 79.
Ouais.
Et c'était un collectif de tous les allumés rennais.
Entre les deux fils dénudés de la Dynamo.
Exactement. Et tout à l'heure, j'étais avec Richard Dumas qui me rappelait justement que pendant qu'on jouait, enfin, on jouait entre guillemets, il y a quelqu'un qui étendait du linge derrière nous. Et que tout d'un coup, les gens se sont mis à applaudir, donc on s'est dit « tiens, super, ça marche bien ». Et en fait, il y avait un mec qui avait fait le pari de passer à poil derrière nous, et ça a été le highlight de la soirée. Mais ça devait être très très mauvais, je pense, au niveau musical.
Mais vous dites dans une interview que vous vous souvenez même pas de si vous avez chanté ou pas.
C'est vrai, ouais. C'est normal.
Ah oui ?
Quand on a vraiment vécu ces années-là, on ne s'en souvient pas, je crois.
Je connais le slogan.
Oui, mais c'est pas faux. Hein.
Vous avez beaucoup de trous de mémoire ?
Ça dépend pourquoi. Pas pour ce que j'ai enregistré, pour la musique, j'ai une mémoire qui est très bonne. Après, pour le reste, c'est aléatoire.
Alors, je vais vous poser des questions inspirées de titres d'albums.
Ouais.
Le premier, c'est Mythoman, collaboration avec Jacques Noe et le groupe Marquis de Sade.
Ah,
vous
oui.
étiez le premier artiste signé par Virgin France.
Oui.
Est-ce que vous mentez, Étienne Dao ?
Oui, enfin, ça m'est arrivé, et on l'est tous un peu. Et particulièrement quand on est adolescent, on a envie que sa vie soit plus belle que la réalité, donc on s'invente un peu des choses. Alors oui, un peu, bien sûr.
Et aujourd'hui ?
Beaucoup moins.
Pour pas vexer les gens, ce qu'on appelle un white
lie ?
Non,
mais parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai accompli des choses qui me plaisent et j'ai une vie qui est vraiment très à l'image de ce que je pouvais... Enfin, mais même au-dessus, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer quand j'étais jeune homme. Donc, après, on a moins besoin de se raconter des histoires.
Ouais, c'est quand on ment, c'est quand on s'aime pas trop, en fait.
Non, c'est quand on a envie que la vie soit plus belle que ce qu'elle est. On s'invente un peu des choses, comme les enfants, en fait.
83, tube, Le Grand Sommeil, aimez-vous Raymond Chandler ?
Oui, beaucoup, bien sûr. Ah. Et le film ?
Ah bah oui, avec Humphrey Bogart.
Ouais, et Lorraine Bacall.
Bah évidemment. Et alors, bon, le sommeil, dormez-vous bien ? À part
peu,
cette nuit ?
Très peu.
Combien d'heures ?
Je dirais max 5.
C'est vrai ?
Oui.
Un peu plus que le président de la République. Et vous êtes en pleine forme quand vous vous réveillez ou...
Oh, je crois que j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Quand je suis en tournée, par contre, j'essaie de dormir un tout petit peu avant les concerts. C'est mieux pour la voix. Puis c'est bien de disparaître un peu. Ça évite de parler à longueur de temps. Et quand on doit chanter deux heures après, il vaut mieux être en voix.
Est-ce que vous
si
avez
je peux m'exprimer ainsi.
Oui, justement, est-ce que vous avez des astuces pour les extinctions de voix, les problèmes de voix? Est-ce que vous faites des...
Oui, oui, bien sûr. Oui, il faut, enfin, c'est très athlétique, en fait, d'être sur scène. Il ne faut pas le dire, mais oui, on se prépare. Enfin, tout le monde chauffe un peu sa voix, fait des... se stretch. Enfin, oui, c'est athlétique. Hein. On ne monte pas en scène comme ça, à froid.
Vous vous stretchez?
Oui.
Comment?
Comment? Vous voulez que je vous montre?
Oui, j'aimerais bien, je peux le décrire aux auditeurs.
Je ne sais pas, je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça.
Bon,
c'est une colle, là.
Un péché mignon à Rome, pour Week-end à Rome.
Un péché mignon à Rome.
Ou une adresse. Ou un plat.
Je connais pas très bien Rome.
Vous cassez un mythe, ce soir.
J'ai visité la Villa Médicis, parce que j'ai un ami qui a habité quand il était enfant.
Quelle chance, c'est un des plus beaux endroits du monde.
Il y a passé du temps, il avait envie de retourner là-bas, et donc il m'y a emmené. Et c'est un endroit absolument somptueux, quoi.
En 86, Pop Satori, avec les tubes Tombés pour la France et Épaules Tatou. Et moi, j'ai pensé évidemment à Kerouac qui a écrit Satori à Paris.
Ah oui.
Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs ce qu'est le Satori et nous dire si vous en avez déjà connu un?
Oui, c'est Franck Darcel de Marquis de Sade qui m'avait suggéré ce livre. Parce qu'en fait, il raconte l'histoire de Jack Kerouac qui arrive en France.
Mais ça vient vraiment de ce livre?
Ah oui, vraiment, bien sûr. Le livre s'appelle Satori à Paris. Ouais. Et Jack Kerouac vient en Bretagne pour découvrir les origines bretonnes de son nom. Et dans un taxi, mais on ne saura pas pourquoi, parce qu'il ne le raconte pas, il a un satori. Un satori, c'est une illumination. Hein. J'ai lu ce livre qui m'a beaucoup plu. Évidemment, j'avais lu Sur la route, j'étais un grand fan des livres de Kerouac. Et j'ai eu la sensation aussi d'avoir un satori à Paris, parce que je venais d'arriver, j'étais un jeune provincial, et tout d'un coup, je découvrais le succès. C'était extraordinaire pour moi de sentir que les musiques ou les chansons que je faisais avaient l'air de plaire, que tout d'un coup, j'avais l'impression de voir de l'affection dans les yeux des gens. J'ai trouvé ça, c'était un moment, c'était un début, et c'était assez beau. Et donc j'ai appelé l'album suivant Pop Satori.
Là, c'est pour Chanson d'innocence retrouvée. Est-ce que vous vous sentez facilement coupable?
Coupable? Pas exagérément, on va dire. On a tous un fond de culpabilité. Enfin, c'est très facile de faire culpabilité. Il faut résister à ça. C'est un piège.
Ouais, mais c'est difficile.
Oui, c'est difficile, mais il faut lutter contre ça, je trouve. Enfin, il n'y a aucune raison de se sentir coupable de quoi que ce soit. On fait comme on peut. Hein.
Ouais, bah ça, c'est sûr. Ouais. Parfois un peu mieux que d'autres fois. Sur Chanson de l'innocence retrouvée, il y a le titre Boulevard des Capucines qui reprend une lettre retrouvée de votre père.
Oui, alors c'est sur l'album précédent qui s'appelle L'Invitation.
Excusez-moi.
Pardon.
Mais non, mais vous avez raison. Autant pour moi, TEMPS comme tout le monde le sait. Et vous confiez à Télérama en 2013 que ça avait été libérateur. Et je voulais savoir, la question est la suivante, avez-vous été un bon père pour vous-même?
Je pense que j'étais un meilleur père pour moi-même que mon père n'a été pour moi.
Oui, parce qu'il est parti quand vous étiez très jeune.
Oui, mais en même temps, voilà, il faut pas, personne n'est victime de quoi que ce soit. C'était mon parcours, c'était mon histoire. Par exemple, il m'a légué un album des Beach Boys. Ça paraît être pas grand-chose, mais je trouve que c'est déjà pas mal.
Vous êtes facilement reconnaissant?
Oui, je crois. Je crois que je suis assez... je peux avoir beaucoup de gratitude par rapport aux cadeaux qu'on peut me faire. Et j'ai la chance d'en recevoir beaucoup.
Vous avez été en colère plus jeune?
Plus jeune? Je me souviens pas d'avoir été en colère, en fait. Vraiment, j'ai eu une enfance un petit peu particulière, un peu chaotique. Mais je pense que j'ai utilisé tout ça pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. j'ai pas du tout de regret, de colère ou de quoi que ce soit. J'ai la sensation, peut-être à tort, qu'il y avait une logique dans le parcours.
Étienne Dao, le chant des idoles. Et c'est amusant, Étienne Dao, parce que vous aviez l'impression pendant le disque que ce n'était pas vous qui chantiez.
Non, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a deux choses. C'est quand on entend une de ces chansons pour la première fois à la radio, on a l'impression que tout d'un coup, elle est réelle. Parce que tant qu'on est en train de l'écrire, ou tant qu'elle n'a pas fait sa route à l'extérieur de soi, on a un peu on a l'impression qu'elle est encore en soi. Et quand on l'entend à la radio, elle part ailleurs, en fait. Elle devient la propriété d'autres.
Et ça vous arrive souvent d'entendre vos chansons à des endroits, dans des endroits publics, des magasins, des voitures, je sais pas.
Oui, mais quand j'entends des chansons, en général, ce sont des chansons connues que j'ai entendues plein de fois à la radio, quand on monte dans un taxi ou qu'on rentre dans un supermarché. Mais quand c'est une chanson comme celle-ci, que vous êtes la seule à passer.
Ouais. Bravo à l'équipe.
Over the rainbow, le Rhin d'Our, rentrer tard sais comme on l'entend, et j'ai l'idée d'une idée. Dans les airs et décollé de ce bitume et ses pavés à fond calme.
Dans votre opus Étienne Live, Étienne Dao, qui sort le 29 novembre, on peut notamment entendre Les Heures Hindoues. Il y a trois éditions, Deluxe, double CD, avec DVD, édition double CD et triple vinyle. Et ça reprend votre live du 22 décembre 2023 à Bercy. Parce que je ne suis pas moderne, je dis Bercy. Accor Arena.
Accor Arena.
Accepter de jouer dans cette salle immense, c'était quelque chose d'important pour vous. C'était un sacré défi.
Bah surtout, j'avais pas très envie d'y aller.
Ah bon?
Non, à la base, vraiment, ça me paraissait pas du tout être pour moi. Et j'ai été challengé par Thierry Suc, avec lequel je tourne depuis longtemps, et qui est un prince, vraiment. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et il m'a mis un peu au défi, donc, de faire tourner des grands espaces. Et j'ai relevé le défi. Et en fait, j'ai adoré ça. Parce qu'en fait, j'ai fait au début, quand j'ai commencé à chanter, j'ai fait de très grandes salles. On passait vraiment de petits théâtres à des patinoires d'un coup, parce qu'il y avait de plus en plus de monde. Et j'ai fait que ça pendant des années. Et j'avais envie de revenir à des choses, à des endroits, à des salles où il y avait davantage de proximité. Et je me plaisais bien là-dedans, parce qu'en fait, comme en tant que spectateur, j'aime bien ça aussi. Et en fait, j'ai adoré cette soirée et j'ai adoré cette tournée aussi, parce qu'une tournée, c'est pas que soi, c'est comment on est entouré, c'est l'équipe technique, c'est les musiciens, c'est le répertoire qu'il faut, c'est l'entourage qu'il faut. Enfin, c'est un ensemble de choses qui font que voilà, que la vie est belle, quoi.
Il paraît que vous êtes déjà en plein dans l'écriture et la production d'un album pour quelqu'un d'autre que vous.
Ah oui, c'est pas pour moi.
Vous pouvez dire qui c'est ou
non.
D'accord, ça marche.
Alors, désolé.
Non, je comprends totalement. Moi, je ne vais pas insister sur ce qui sort le 29, parce que je pense que mes confrères Mishka Assayas et Laurent Goumard, qui vont vous recevoir juste après, vous parleront sans doute plus de musique que moi. Et je vais me concentrer sur les recommandations culturelles que vous avez choisies pour les auditeurs, si ça vous va, sauf si vous voulez qu'on en parle. J'ai juste peur qu'il vous fasse répéter des choses après.
D'accord, mais bien sûr, on fait comme vous voulez.
Ah ben non, on fait comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on veut, Étienne Dao?
Ben, je sais pas, on peut parler des recommandations.
Ah ouais, une série, par exemple?
Alors, une série.
Ah bah, ouais. Allez.
Mask to describe Thomas Ripley. What line of work are you in, Tom?
Accounting.
You're a very hard man to find.
Une série intitulée Ripley.
Exactement, ouais. Et c'est une série qui est déclinée du bouquin de Patricia Highsmith, Ripley, qui a été réalisé dans les années 60 par René Clément, avec Delon, Maurice René, Marie Laforêt, qui est un très grand film, enfin, que moi j'aime vraiment beaucoup. Et cette série prend le temps de décliner vraiment et de dérouler le livre avec toutes les méandres de la psychologie de tous les personnages. Donc c'est un thriller, c'est prodigieusement filmé en noir et blanc, c'est-à-dire que chaque plan est comme un tableau, c'est magnifique. C'est vraiment remarquablement interprété aussi. L'interprète principal, Andrew Scott, qui est un acteur irlandais incroyable, de réserve et d'intensité. Et il y a la BO aussi qui est démente, avec beaucoup de pop italienne des années 60. C'est vraiment... Moi, j'avais pas du tout envie que ça s'arrête. Il y a 8 épisodes, mais ça aurait pu durer encore. C'est vraiment... On est emporté. Parce qu'en fait, il y a cette espèce de déambulation assez lente. Hein, et en même temps, cette tension du personnage et la tension de l'enquête, on ne sait pas du tout s'il va se faire choper ou pas.
Alors ça, là on va entendre une archive, c'est pas vous qui l'avez choisi, mais j'ai voulu qu'on l'entende parce que c'est un de vos films préférés.
Not much of a burglar, are you? Come to bed and you can have whatever you want. I'm on my...
Tonight on Hungry Eye, it gives me great pleasure to welcome Britain's greatest living painter, Francis Bacon.
I do it with a chance brushstroke.
You actually make money out of painting.
C'est un de vos films préférés, Etienne Dao, oui, vous reconnaissez?
Oui. Ah oui, c'est Love is the Devil.
De John Maybury, sorti en 98.
C'est son premier film d'ailleurs, et c'est le seul long métrage, je crois.
Et c'est sur Francis Bacon.
C'est sur la relation entre Francis Bacon et George Dyer, qui était son amant et sa muse.
Ça s'est assez mal terminé d'ailleurs.
Et oui, très mal à Paris d'ailleurs. J'ai vraiment... j'ai une anecdote à ce sujet, c'est que j'ai une fascination morbide... pour la fin de cette histoire où George Dyer s'est suicidé dans cet hôtel. Et je suis allé dans cet hôtel qui est l'hôtel des Saints-Pères. Et j'ai donc demandé au garçon qui était au desk s'il connaissait la chambre où ça s'était passé. Et il avait l'air de ne pas savoir du tout de quoi je voulais parler. Et derrière moi, il y a une voix, une dame qui m'a dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Et en fait, c'était la propriétaire des lieux, elle était contemporaine. De l'endroit. Moi, je rêvais de visiter la chambre où il s'était suicidé.
Et vous l'avez vu ?
Non.
Il y a Raymond Roussel aussi à Palerme qui s'est, on ne sait pas vraiment, mais suicidé dans une chambre pour les amateurs de macabre. Francis Bacon, il vous a inspiré aussi pour Les Heures Hindoues ?
Ah oui, oui, oui. Enfin, ça a inspiré beaucoup le réalisateur Sébastien Chantrel pour le clip de Heures Hindoues. Ouais.
Mais c'est Gainsbourg qui vous a donné un livre de
ses productions. Oui, parce que j'aimais beaucoup, enfin j'aime toujours beaucoup Bacon, Francis Bacon. Et quand j'étais, je voyais beaucoup Gainsbourg à une époque. Et il voulait me faire un cadeau et il avait ce livre avec des reproductions des tableaux de Bacon et il me l'a offert, j'ai toujours.
Dans les réalisateurs que vous aimez, Etienne Dao, il y a aussi John Waters.
J'ai une passion pour John Waters. Je n'imagine pas vivre dans un monde sans lui.
Non, heureusement qu'il existe.
Oui, voilà, ça relativise beaucoup de choses, ça remet vraiment le curseur là où ça doit être, dans une époque tellement...
Oui, trois petits points.
Oui.
Qu'est-ce que vous recommandez comme film de John Waters ou livre, puisque là il a écrit plusieurs livres qui ont été publiés chez Actes Sud.
Alors j'ai pas réussi à terminer le dernier, qui était trop délirant malgré mon amour pour ce qu'il écrit. Mais il est venu à Paris il y a pas longtemps justement pour le présenter. On s'est vu à ce moment-là. Il m'envoie des cartes de Noël tous les ans. Donc, bon, c'est vraiment une fierté absolue. Il y en a plein mes murs.
C'est chic d'avoir des cartes de John Waters sur ses murs. Moi j'ai la poste.
Parce que mon film préféré, je crois que c'est Serial Mom.
Ah oui.
Mais bon, j'aime tous les premiers films avec Divine, bien sûr.
Bien sûr.
C'est tellement intelligent, drôle, méchant.
Sale.
Oui, voilà. Et puis aussi Desperate Living, qui est vraiment un film où les gens hurlent du début à la fin, sont d'une plein de colère. Enfin, c'est...
Il y a les écrits de Cookie Muller aussi qui reparaissent aux éditions Finitude, que je recommande aux auditeurs.
Ouvre les yeux, réveille-toi. Ouvre l'oreille, ouvre ta porte. C'est l'amour qui sonne et c'est moi qui te l'apporte.
Chers auditeurs, nous sommes en 1934 et vous entendez... Bon, j'arrête là, je rigole toute seule. Suzy Solidor, le morceau ouvre. Et vous avez choisi non pas un morceau, Etienne Dao, mais un livre, Fil d'or.
Oui, parce que je ne connais pas la voix de Suzy Solidor.
C'est vrai ?
Je ne connaissais pas ses chansons. Je sais comme tout le monde qu'elle a été la muse de Man Ray, entre autres, que c'était une garçonne extrêmement volage et scandaleuse dans les années 30. Ce qui l'a rendue sympathique,
évidemment.
Immédiatement.
Oui.
Et je ne savais pas, je sais qu'elle est malouine, évidemment, c'est une fierté locale. Et je suis tombé sur un livre qu'on m'a envoyé. Les éditions Séguier sont vraiment très intéressantes. Ils ont toujours un catalogue vraiment, vraiment passionnant, enfin, pour mon goût, enfin, en tout cas.
De curiosité, comme ils
disent. Jean Le Gall, qui s'occupe des éditions Séguier, m'a envoyé Fil d'or, qui est un roman de Suzy Solidor qui date de 1940, je crois, et qui est un livre complètement oublié, parce que j'en avais jamais entendu parler, par exemple, et je ne savais pas que ça avait été un auteur de ce niveau-là. Et c'est une fiction un peu magique qui commence en Orient, de légionnaires qui évoquent leur passé, et qui se termine dans les bars de marins à Saint-Malo. Et il est question d'un jeune marin qui s'appelle Fil d'or, à cause de sa chevelure. et qui déclenche des passions folles et de la fascination auprès de tous les gens qu'il rencontre. Et c'est absolument prodigieusement écrit. Il y a plein de trouvailles poétiques et c'est vraiment un livre à redécouvrir. Vraiment, je recommande. C'est très très beau. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget.
Dernier titre de The Cure, A Fragile Thing.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Lettre à France de Paul Naref pour continuer cette carte blanche artistique avec vous, Etienne Dao, en direct. Vous conseillez aux auditeurs l'autrice et dessinatrice anglaise francophile qui a façonné des livres un peu underground. Je vous cite notamment sur la pop française. C'est aussi l'autrice d'une bio sur Jane Birkin qui était votre amie et co-autrice d'un ouvrage sur Paul Naref. Comment s'appelle-t-elle ?
Elle s'appelle Rachel Lee Carter. Comme vous le disiez, elle est anglaise, francophile. Elle aime beaucoup la pop française. Et il y a ce petit recueil qui s'appelle French Pop Art, que j'aime beaucoup. Il y a toutes les grandes figures de la pop française, Dutron, Hardy, Birkin, etc. Mais pas que. Hein. Il y a aussi des figures moins connues comme Zouzou, Dany. Enfin bon, Dany est plus connu, mais Zouzou, Léonie, Évariste. Et voilà, elle est vraiment très calée en pop française. Enfin, elle connaît vraiment plein de choses, des choses très obscures. Et j'avais envie de parler d'elle parce que j'aime beaucoup ses dessins. Ça me fait penser un peu à Guy Pellart, époque Pravda, la survireuse. Et voilà, j'aime beaucoup. Elle est très peu connue. Ce sont des petits fascicules, des petites autoproductions.
Vous en avez apporté un, là.
Oui, tout à fait. C'est joli, je trouve.
Ouais, et elle vous a peint, d'ailleurs.
Oui, elle a fait un portrait de moi, c'est vrai.
Ainsi que Calypso Valois, qui
vous êtes le parrain. Exactement, elle aime beaucoup Calypso. Et elle a bien raison.
Et elle a aussi peint Michel Gourevitch, que moi, j'aime beaucoup. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Etienne Dao. Il y a quelqu'un pour laquelle vous avez fait une fugue pour aller la voir au Palace. Et...
Oh oui, je vois de quoi vous voulez parler.
C'est Nico, oui. Et elle chante avec Lou Reed et The Velvet Underground sur la pochette, la fameuse pochette d'Andy Warhol avec une banane,
oui.
Sur laquelle vous êtes tombé adolescent.
Ah, ça a été une déflagration. Je suis passé à l'âge adulte, à l'âge de jeune homme, on va dire, avec cet album de bébé. C'était vraiment pénétré dans un monde... mystérieux, plein de dangers et de choses très attirantes, bien sûr.
En 2017, dans une interview, vous disiez que vous aviez refusé de rencontrer Lou Reed de peur d'être déçu. Depuis, vous...
Non, en fait, on m'avait dit beaucoup de choses qui faisaient que je n'avais pas très envie de le rencontrer. On avait des gens en commun et à chaque fois, j'ai évité parce que je ne voulais pas être défané. Je l'aimais trop. Et en fait, j'ai su après sa mort par une journaliste qui m'a envoyé un mail qu'elle lui avait envoyé, qui s'appelle Paola Genone. Et elle était en contact avec Lou Reed et il a dit des choses très gentilles, notamment sur ma voix.
Ah, il a dit « La texture de sa voix est très pure et chaleureuse, elle a la couleur du cocher de soleil et du champagne. »
Ah, vous l'aviez ?
Bah, bien sûr.
Ah non, mais ça, c'est, je ne sais pas si je pouvais l'encadrer au-dessus de mon lit.
Bah oui, vous pouvez le faire tatouer.
Non, mais ça, c'est l'adoubement absolu quand même.
Oui, avec John Waters. Votre seconde acquisition, c'est le premier album des Pink Floyd, Piper at the Gates of Dawn, celui avec l'un des types que vous admirez le plus, Syd Barrett. I really love you and I mean you. The star above you, crystal. Et ce Syd Barrett, Etienne Dao, il vous a inspiré le nom d'une association créée avec des amis dans les années 70, Thérapine, comme le titre qu'on entend.
Oui, j'avais embarqué deux amis de fac avec moi dans la production d'un concert de Stinky Toys. Et j'ai eu bien raison parce qu'en fait, je les ai rencontrés, ce sont devenus des amis pour la vie.
Et
j'étais pas du tout. Producteur de spectacle, rien du tout. J'étais un seul et unique, juste parce que je voulais les voir.
Il y a eu aussi Gong. J'ai lu qu'il y avait eu Gong, par exemple, qui est le groupe qui est sur un de mes albums mythiques avec Dachiel et Dayat. Vous les avez fait venir, Gong,
ah
Magma.
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Non.
J'ai lu ça dans une revue
non,
de presse.
Non, juste Stinky Toys, ça a été la fin. Je veux dire, on a bouffé des patates pendant des années après.
Il paraît que Elie de Médéros vous a appris à vous habiller.
Aussi, oui.
Et elle vous a donné une veste rouge qu'on voit sur votre premier album.
Oui, c'est vrai. C'est une fripe qu'elle m'a offert et que j'étais habillé avec cette veste rouge, hiver comme été. D'ailleurs, je la porte sur la pochette de mon premier album et je l'ai portée jusqu'à ce que ça tombe en poussière. Et je l'ai faite refaire, je l'ai donnée à Edith Frambuena, mais elle aussi, c'était tellement vieux qu'elle l'a jeté.
Oh, elle charrie quand même, pardon. Quels étaient vos rapports avec Jacquenot qui a quand même pointé un pistolet sur vous comme tout bon ami à un moment?
Comment raconter ça? J'avais une passion évidemment pour Jacquenot et pour Ellie, et un petit peu plus pour Ellie à ce moment-là. Et ça, voilà, ça a posé des petits problèmes. Mais j'étais tellement saoul que quand il m'a posé son revolver sur la tempe, ça, je ne savais pas du tout s'il était chargé ou pas, hein, d'ailleurs. Je riais tellement que ça a tout désamorcé. Et après, on est parti au bar et on a continué à boire.
Etienne Dao, c'est votre choix musical. C'est oui. Un groupe texan qui a pris un mot thaïlandais pour nom.
Oui, ça veut dire objet volant non identifié ou avion.
Et le nom du groupe, je vous laisse le prononcer.
Kruambin.
Avec une grande lâcheté.
Kruambin. Ouais, je sais que c'est pas un nom. Une fois qu'on l'a intégré, ça va.
Et le morceau, c'est Time.
Oui, c'est Time. Ça fait partie d'un album qui s'appelle Mordechai, qui est un de leurs albums récents, où il y a eu une ouverture, parce qu'en fait, ils ont développé un style. Depuis quelques années, ils ont fait plein d'albums, ils sont très créatifs, compris avec d'autres. Et je les aime beaucoup. Voilà, je les ai vus à l'Olympia il n'y a pas longtemps, c'est incroyable sur scène. Je trouve que le guitariste Mark Spear est vraiment c'est un vrai virtuose.
Vous êtes très très généreux avec les autres musiciens parce qu'il y en a beaucoup que vous mettez en avant.
Oui, ça me paraît normal de parler de la musique des autres.
Bah, vous savez, c'est très rare chez les artistes.
Ouais, je sais pas. Moi, j'écoute beaucoup les autres parce que vraiment, c'est une passion, j'aime ça.
Ouais, Phoenix Orelsan qui vous a inspiré aussi par son énergie en concert. Vous prenez
oui, quand je suis allé voir son concert à Bercy, c'est vrai que ça m'a titillé.
Il y a un autre groupe que vous aimez beaucoup. C'est le groupe Unloved.
Ah, j'adore cette chanson. Vraiment, c'est vraiment, j'adore cette version.
Vous avez fait avec eux.
C'est vraiment un twist sous Tranxène.
Ah bah, écoutez, moi, dès qu'il y a le mot twist et Tranxène, je suis cliente.
Vous achetez. Ouais, j'adore cette chanson.
Remember.
Remember, ouais.
Vous dites que vous êtes très obsédé et que quand il y a une chanson qui vous plaît, vous pouvez l'écouter du matin au soir.
Ah oui, ouais, c'est vrai.
C'est quoi en ce moment?
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? J'écoute plein de choses très différentes. Je viens de découvrir un duo qui s'appelle Sons of Sevilla. C'est un titre que j'aime bien, voilà. Il y a plein de choses que j'écoute. Hein. De toute façon, j'écoute plein de musique très éclectique.
C'est Bibi, quoi, notre petit perroquet. On l'a eu 25 ans.
Et, sur la pochette de La Notée.
La Notée, ouais. Étienne était tout débutant. Quand
il
n'était
pas connu du tout. Ouais.
Et nous aussi, d'ailleurs.
Et c'était une photo assez simple, mais qui a fait...
Sur un ciel bleu.
Et qui est très très célèbre. On l'a fait, on n'aurait jamais cru. Quand on fait des œuvres, on ne sait jamais comment ça va, comment elles vont être reçues et tout. Ça, c'est des surprises pour nous à chaque fois.
Le duo d'artistes Pierre et Gilles, oui, reçu dans la 20e heure il y a quelques semaines. Étienne Daou, vous vous souvenez de la séance photo pour La Notée avec...
Bien sûr, j'étais arrivé avec mes pochettes de Ricky Nelson, qui était une obsession. Je voulais absolument faire des pochettes très 60s sur un fond de couleur, un peu comme ça, orange. Et en fait, finalement, ça marchait pas du tout. Et ils m'ont dit, écoute, remets ton t-shirt marin, celui avec lequel t'es arrivé. Et ils m'ont aspergé d'eau avec un brumisateur. Ils m'ont posé leur perroquet bibique sur l'épaule. Et puis la pochette était là. Et c'est drôle parce qu'en fait, il y a quelques mois, ils ne gardent que la photo d'origine, je crois. Et là, ils ont retrouvé les hectares de la séance photo, c'est-à-dire avant que ça devienne la pochette définitive. Et ils m'ont envoyé ces images, c'est absolument incroyable. Et effectivement, ils avaient bien raison de changer, parce que les images d'avant étaient moins fortes, moins intéressantes. Mais c'est quand même incroyable de se revoir à ce moment-là. J'avais la sensation, même si à l'époque, c'est une image très idéalisée, bien sûr, parce que leurs images sont complètement idéalisantes. On est tout d'un coup sublime.
On aimerait tous être vus par le filtre Pierre et Gilles.
Le cheveu qui brille, enfin tout brille. Et même si ça ne me ressemblait pas, j'avais l'impression qu'ils avaient capturé vraiment la personne que j'étais à l'époque. C'est vraiment complètement innocent, quoi.
Je serai le voleur, disait Jean. À présent, je suis le poète. Il sait que l'histoire bourgeoise lui donnera toujours tort. Et il proclame à la face de tous qu'il a raison d'avoir tort. Les classes possédantes ne sont plus très sûres de leurs droits. Nous voyons plus que jamais l'injustice. Et nous n'avons ni les moyens, ni la volonté de la réparer. Jean Genet s'oppose à toute société. C'est pour cela que nous sommes ses frères. Jean Genet, c'est nous.
2010, le spectacle, votre spectacle, Étienne Daou, oui. Le condamné à mort. Hommage à Jean Genet, disque et spectacle avec Jeanne Moreau, dont la mort ainsi que celle de votre sœur a eu beaucoup d'effet sur vous. Et ce ne sont pas d'elle que je voudrais vous faire parler, sauf si vous avez envie, bien évidemment. Mais de votre rapport aux morts. Parce que j'avais lu dans une interview que vous vous sentiez en leur compagnie, j'avais trouvé ça très beau. Que finalement, ce n'était pas dans les cimetières ou sur leur stèle que vous vous recueillez, mais ils étaient là.
En fait, c'est-à-dire que je suis croyant, donc j'ai la foi. Alors, je ne peux pas dire que je me range dans une catégorie particulière, mais j'ai une foi qui est assez forte. Et j'ai la sensation que les gens qui sont partis, enfin que leur enveloppe physique n'est plus là, que la relation n'est pas terminée avec eux. Mais on ne peut pas, après avoir entendu Jeanne, je ne peux pas ne pas parler d'elle. Parce que c'est vraiment une rencontre extrêmement importante pour moi. D'abord d'avoir porté ce projet qui était un projet un peu... qui était vraiment hors clou pour moi et pour elle aussi. Hein. Peut-être un peu moins parce qu'il y avait un côté théâtre, mais ça a été une aventure fantastique et pour les musiciens et pour moi d'être au contact de quelqu'un d'aussi jeune. Vraiment. Et d'aussi libre. C'est quelqu'un... ça fait partie des personnes qui font relativiser beaucoup de choses.
Il ne dira pas qu'il a tué son père, sa mère, son voisin.
Étienne Dao, je vais vous citer. J'ai toujours essayé depuis mes débuts d'être dans la représentation de la légèreté, mais je ne suis pas du tout léger moi-même. C'était un genre de politesse avec les autres. J'annonçais la couleur dans ma première chanson, Il ne dira pas, qu'on entend. Et vous dites d'ailleurs, j'ai vu la mort de près, et là ça parle de votre enfance, et vous dites qu'il y a des tas d'indices dans toutes vos chansons depuis toujours.
Oui, c'est normal, mais j'aime pas l'idée de souligner les choses à l'encre rouge, et encore moins de passer pour une victime. Un parcours de vie, c'est fait de plein de choses, de joie, aussi de parfois de chaos, parfois de déséquilibre, mais c'est ça qui vous construit. Donc il n'y a rien à regretter. Après, c'est vrai que cette chanson, elle dit beaucoup de choses, il ne dira pas, c'était presque mon motto, puisqu'en fait, pendant des années, j'ai absolument pas parlé de moi, du tout. Ça m'a paru tellement évident, mais beaucoup plus tard, en fait. J'ai compris beaucoup plus tard pourquoi j'avais écrit cette chanson, et pas du tout à l'époque. Alors que ça a été le premier single, même si on en a vendu 1,5. C'était quand même une manière de montrer quelque chose de soi. Et de commencer par dire « il ne dira pas », quand même, c'est presque drôle, quoi.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit par la suite ?
Oh, je sais pas. Je pense que c'est le fait de... Je sais pas, de maturer, d'avoir des expériences, d'avoir moins peur des choses.
Vous vous décrivez...
Mais par contre, par rapport à la légèreté, je crois que j'ai toujours été le plus... J'ai essayé d'être le plus léger possible, vraiment, même pour moi.
Et vous y arrivez ?
J'y arrive de plus en plus, ouais.
Est-ce que vous arrivez à transformer les failles en atouts ? Je pense par exemple à votre exil, qui finalement maintenant est devenu une force puisque vous arrivez à vous sentir chez vous assez facilement dans n'importe quel pays.
Mais je crois que tous les gens qui sont déracinés d'un endroit à un moment donné et qui développent une faculté d'adaptation dans l'endroit où ils arrivent, par obligation et ensuite par plaisir, se sentent un peu partout chez eux. Chaque fois que j'ai vécu dans plein d'endroits différents, j'ai vécu à Londres, à Lisbonne, à New York, à Barcelone, à Ibiza, et à chaque fois, je me suis installé. C'était pour moi, vraiment, je suis chez moi, quoi. Vraiment, tout de suite.
Vous avez l'air, justement, et c'est ce qui ressortait de ce que vous disiez au début de l'émission, à votre place. Et je me demande s'il y a quelque chose que vous aimeriez accomplir absolument.
Ouais, mais ma place se déplace.
Ah oui ? Souvent ?
Bah oui.
Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore fait, que vous aimeriez à tout prix accomplir ?
Oh, il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein. Il y a des choses que je ne peux pas avouer parce que ce n'est pas dans ma... c'est pas mon créneau, en fait.
C'est trop John Waters.
Mais il y a plein de disques que je n'ai pas encore fait, bien sûr. J'ai vraiment toujours l'impression d'être un débutant et d'avoir tout à faire. Je n'ai pas du tout conscience de tout ce qui s'est passé avant. Enfin, je veux dire, je suis content que ça se soit passé et d'avoir éliminé certains fantasmes musicaux. Mais j'ai l'impression d'avoir encore plein de choses à faire. Je me sens très jeune, étrangement.
Et débutant. Et bien pourtant. Merci beaucoup, Étienne Dao.
Merci à vous.
Votre concert Étienne Live, enregistré lors de votre premier Bercy, puisqu'il ne s'appelait pas encore Accor Arena, sort le 29 novembre en plusieurs éditions. Double CD, version deluxe avec DVD et également en triple vinyle.
Et Blu-ray.
Et Blu-ray,
ouais.
Quatre versions alors. Et le film sera projeté...
À la demande générale d'une personne.
Écoutez, c'est un peu moins qu'une personne et demie, mais bon, quand même, c'est pas mal. Le film sera projeté au Grand Rex le 2 décembre. Et on peut aussi se procurer la version augmentée des chansons de l'innocence retrouvée. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Guillaume Roux. Et dans un instant, Étienne Dao, vous allez courir pour rejoindre Mishka, oui. Assayas pour un very good trip.
Je n'ai pas vu depuis longtemps, ça me fait très plaisir de le revoir.
Eh bien, écoutez, Mishka, entre en studio. Oh. Moi, je comptais vous l'envoyer en pneumatique, Mishka.
Comme moi,
mais vous êtes là, alors.
Mais oui, je suis là.
Mais c'est formidable de vous voir.
Mais oui, je suis très touché.
On a tous les deux de grandes barbes, tellement ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus.
Oui, surtout moi.
Alors, quel est le programme des réjouissances entre vous deux ? J'ai essayé de ne pas déflorer trop de choses.
C'est une surprise, on va dérouler.
Oui, en fait, on a une correspondance tout à fait secrète. Enfin, dont je ne peux pas dévoiler le contenu.
Exactement.
Mais les auditeurs entendront quand même.
Oui, si, c'est possible, c'est prévu.
À tout de suite.
À tout de suite.